la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète a la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
On fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, vous êtes bien sur le 102.2 Radio Canu et c'est le Canu Info du lundi soir.
Et à l'international, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par parler de Hong Kong. On enchaînera ensuite avec ce magnifique plan de paix mené par Trump et Netanyahou sur les territoires palestiniens. Et on terminera à l'international avec un point sur Total en Ouganda.
Ensuite, au national, on parlera de la situation dans les CRA, avec un témoignage notamment d'un retenu de Wassel. On parlera ensuite des 12 sites industriels offerts aux multinationales, avant de parler de l'impunité policières qui existent aussi dans les campagnes.
Et pour continuer au national, on enchaînera donc sur le mouvement des retraites avec un premier sujet sur la prime qu'ont touché les agents non grévistes à la SNCF. Puis ensuite un sujet sur un patronat, le patronat qui est en ce moment de plus en plus embarrassé par l'attitude du pouvoir macroniste.
C'est dire,
oui. Et ensuite, on enchaîne sur la répression du mouvement social, avec notamment le fameux coup de com' autour de la Glief 4, puis l'incroyable répression dans les lycées, et pour finir, on finira sur la grève des centres d'incinération en Île-de-France.
Et au local, on terminera en parlant d'un nouveau squat qui a ouvert du côté de Fezin, avant de voir un peu tous les rendez-vous de la lutte, puisque la mobilisation contre la réforme des retraites est toujours bien vivace à Lyon.
On commence à l'international, donc avec un point sur Hong Kong.
Oui, on en avait beaucoup parlé au printemps dernier. On voulait un peu revenir sur la situation aujourd'hui à Hong Kong. Alors, depuis décembre, la situation, elle semble s'être quelque peu calmée. On note quand même qu'il y avait encore 1 million de Hongkongais qui défilaient le 1er janvier dans les rues de l'île. Pour rappel, hein, depuis le début du mouvement, c'est-à-dire le 15 mars, plus de 6000 Hongkongais ont été arrêtés. On compte également des milliers de blessés. Ce dont on a moins parlé, c'est la répression que subissent les salariés mobilisés au sein même de leur entreprise. Des centaines de travailleuses et travailleurs protestataires ont ainsi été licenciés depuis le début du mouvement. Alors cet été, par exemple, la compagnie aérienne Cathay Pacific avait cédé à la pression chinoise, qui leur demandait le gouvernement chinois qui leur demandait la liste des salariés qui survolaient l'espace chinois. Et la compagnie avait ensuite licencié 20 personnes, notamment en recueillant des preuves de leur mobilisation sur leur page Facebook. Dans tous les secteurs, les travailleuses et travailleurs ont subi des pressions, allant jusqu'au licenciement, dans la restauration, les services, mais aussi la finance et les banques qui sont des secteurs particulièrement importants à Hong Kong. Dans certains restaurants, par exemple, les patrons imposaient la télé pro-Pékin en boucle, en menaçant leurs employés de licenciement si d'aventure ils essayaient de l'éteindre. Ambiance BFM TV. Alors, aujourd'hui, des entreprises locales refusent déjà d'embaucher des jeunes locaux. Ils passent au peigne fin les réseaux sociaux avant leur recrutement pour éviter de recruter des contestataires. Alors, pour éviter cette discrimination à l'embauche, des réseaux de recrutement informels se sont mis en place, alors notamment à travers un groupe sur l'application Telegram. Ce groupe est intitulé « Trouve un beau patron ». Il y aurait 21 000 Hongkongais qui seraient inscrits et 3 000 auraient déjà trouvé un emploi grâce à ce groupe Telegram. Alors, au-delà de ces groupes informels, les opposants ont dû s'organiser pour faire face à la répression, notamment au licenciement qu'ils subissent dans le cadre de leur travail. Ces 6 derniers mois, pas moins de 135 nouveaux syndicats ont ainsi demandé à être enregistrés, c'est-à-dire que c'est plus de 100 fois plus que l'an dernier à la même époque. Alors, ces formes d'organisation un peu nouvelles dans la région voient aujourd'hui émerger de nouveaux foyers de contestation à l'intérieur même des entreprises. Un syndicat de personnel hospitalier ont par exemple aujourd'hui appelé à la grève pour 3 jours l'ensemble des salariés des hôpitaux pour protester contre la gestion de la pandémie de coronavirus de la part des autorités hongkongaises. Le syndicat du métro a aussi appelé à la mobilisation. Donc au-delà du pur aspect de défense des droits des salariés, il semblerait que ces syndicats entendent organiser une grève générale dont les revendications principales portent sur des réformes démocratiques et surtout l'abandon des poursuites contre les manifestants qui ont donc été massivement réprimés ces derniers mois. On espère que ces nouveaux modes d'organisation seront à la hauteur des aspirations des Hongkongais et que cette grève générale saura mobiliser la population.
Alors, on enchaîne donc avec ce fameux plan de paix entre Israël et la Palestine, ou les territoires palestiniens. Alors, plan de paix, ce nom est une véritable offense, hein, c'est un véritable foutage de gueule mené par Donald Trump. Alors en gros, le 28 janvier, donc il y a quelques jours, Trump annonce donc ce plan de paix qui s'inscrirait dans le cadre du processus de paix entre Israël et la Palestine et dans un cadre légal international. Bien sûr, en réalité, ce plan est unilatéral et véritablement hallucinant. Déjà annoncé en 2017, Washington reconnaît dorénavant Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël et permet à Israël d'annexer immédiatement ses colonies en Cisjordanie occupée et dans la vallée du Jourdain. Alors, explication. La version de Trump s'aligne sur toutes les attentes sécuritaires et territoriales de la droite sioniste et nationaliste, voire l'extrême droite hein, israélienne, toujours menée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou qui... D'ailleurs, va bientôt essayer de mener sa troisième élection en un an. Ce sont donc de véritables offrandes de territoires palestiniens à Israël. Elles sont massives et sans précédent. Le premier point, c'est donc la souveraineté israélienne pardon, sur la totalité de la vallée du Jourdain. Certes, contrôlée dans les faits depuis 1967 par l'armée israélienne de manière illégale. Alors, la vallée du Jourdain, elle s'étend sur 120 km le long du fleuve Jourdain, bordée par la Jordanie, Israël et l'étoile palestinien occupé, eux aussi illégalement, on y reviendra, en Cisjordanie. Cette vallée, c'est un poumon de fertilité agricole dans la région. C'est une source de revenus pour des milliers de Palestiniens qui travaillent ces terres depuis des générations. Et pour finir, cette vallée possède d'immenses réserves d'eau potable dans une région où le manque d'eau est de plus en plus fort. Ceci explique donc cela et l'intérêt qu'Israël y a toujours porté. Deuxième point, la souveraineté israélienne sur l'intégralité des colonies israéliennes, illégales elles aussi, au regard de l'ONU et du droit international, en Cisjordanie, implantées depuis plus d'un demi-siècle, y compris celles situées en profondeur dans le territoire palestinien de la Cisjordanie. Même les avant-postes, mettez-y des guillemets militaires, isolés, sont concernés, annexés, tac, d'un coup. Symboliquement, le troisième point est terrible. Jérusalem deviendrait donc la capitale une et indivisible d'Israël. Enfin, je cite, libéré. Hein, c'est Trump qui parle de libération, donc on imagine des Arabes et des Palestiniens. Les Palestiniens devront donc se contenter d'un minuscule Jérusalem-Est situé à l'extérieur de la ville. Le Jérusalem-Est historique, lui aussi occupé illégalement, étant annexé. Pour la petite histoire, la partie ouest de Jérusalem, anciennement peuplée de Palestiniens, est annexée par Israël dès 1948, après la première guerre israélo-arabe, pendant que la Nakba est à l'œuvre. La Nakba, c'est la grande catastrophe, c'est la naissance de l'État d'Israël en 1948, soutenue évidemment par les États-Unis, mais aussi par la France et la Grande-Bretagne, qui provoque la migration forcée de 800 000 à 1 million de Palestiniens hors de leur terre historique. En 67, après la guerre des six jours, Israël s'accapare Jérusalem-Est. En 88, l'ONU accorde Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien et Tel Aviv comme capitale d'Israël, ce qu'a toujours contesté dans les faits Israël. Toutes les ambassades étrangères, ou presque, jusqu'à 2008 et l'élection de Trump, étaient à Tel Aviv. Mais en 2018, Trump transfère l'ambassade américaine à Jérusalem, suivi par le Guatemala. Et oui, le Guatemala d'ailleurs a été le deuxième pays en 48 aussi à reconnaître l'État d'Israël. Aujourd'hui, il persiste et signe avec ce plan de paix. Alors, la communauté internationale, spécialement l'Union européenne, s'offusque, surtout pas beaucoup plus, de l'annonce des États-Unis qui légalise totalement, en dehors du droit international, la colonisation israélienne des territoires palestiniens, qui était auparavant illégale. Et quoi alors? Qu'est-ce que ça va changer? Que va faire l'Union européenne? Ou même, que va faire l'ONU? Comme d'habitude, rien, à part des annonces médiatiques. Il y a beaucoup plus d'intérêts économiques et géopolitiques à soutenir Israël dans les faits, véritable bras armé de l'Occident au Proche-Orient. Ces nouvelles annonces, avec effet immédiat sur les territoires palestiniens, vont provoquer de nouvelles migrations forcées massives de Palestiniens et permettre à Israël d'envisager de nouvelles colonies illégales. Ah oui! Et pour finir et pour rappel, spécial case dédié aux médias et à La République En Marche, être anti-sioniste, c'est refuser la colonisation légale ou illégale des territoires palestiniens par l'État d'Israël. Rien à voir donc avec l'antisémitisme.
Et on continue du côté de l'Ouganda. On apprenait en effet ce jeudi la décision du tribunal judiciaire de Nanterre concernant l'exploitation de plus de 400 puits de pétrole par Total en Ouganda. Celui-ci se déclare donc incompétent en la matière, laissant le soin au tribunal de commerce de statuer sur la requête de plusieurs ONG. Alors revenons un peu en arrière, hein. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors Total travaille à un projet d'extraction pétrolière de très grande ampleur en Ouganda. Il s'agit de forer 419 puits dans un parc national protégé et d'y implanter le plus grand oléoduc chauffé du monde, c'est-à-dire 1445 km pour aller donc jusqu'à l'océan Indien. Il prévoit que 200 000 barils sortent chaque jour de cette immense plateforme. En mai 2019, Total assurait laisser, je cite, « un environnement dans un meilleur état que celui qu'il a trouvé », donc LOL. Le parc national en question, qui s'appelle Murchison Falls, compte de nombreuses espèces protégées. Il est classé en zone humide d'importance internationale. Le lac Albert, qui est situé sur la réserve, risque également d'être contaminé donc, par le projet. Donc face à ce méga projet, il y a différentes ONG qui ont décidé de se mobiliser, notamment à travers cette action justice. On compte parmi elles les Amis de la Terre ou encore Survie. Les exactions totales ou de ces hommes de main sont extrêmement nombreuses depuis le début de ce projet. Les paysans ont déjà commencé à être expulsés avant même de recevoir une compensation, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun moyen de survivre. Et ils ont l'interdiction, bien sûr, de revenir à leur champ. Les personnes, enfin surtout les Ougandais qui se mobilisent contre ce grand projet subissent une répression conséquente. Donc par exemple, Dilusi Mugisha, qui est l'un des leaders d'une communauté ougandaise qui est affectée par le projet, il a été arrêté à l'aéroport à son retour de France puisqu'il témoignait durant le procès. Il a été retenu près de 9 heures par les autorités avant d'être libéré. Le 23 décembre, le second témoin ougandais du procès, Fred Mewisga, a vu des hommes inconnus donc, qui ont tenté de s'introduire chez lui. Ils sont revenus dans la nuit suivante en forçant les portes métalliques et en bois de sa maison. Et ils ont même fini par l'enfermer chez lui avec des cadenas. Donc face au danger que représente ce projet, tant pour les populations locales que pour la faune et la flore, le tribunal de Nanterre préfère laisser le soin au tribunal de commerce de statuer. Donc face au droit humain, il oppose le droit commercial. Quand on sait que les juges des tribunaux de commerce sont issus du monde de l'entreprise, on imagine déjà quels intérêts seront défendus dans ce dossier par le tribunal de commerce.
On enchaîne avec le national. Et donc la situation dans les centres de rétention administratifs.
La situation est toujours aussi violente dans les CRA en France et dans leur équivalent européen. Alors pour rappel, les centres de rétention, c'est le dernier maillon de la chaîne à réprimer des exilés, des sans-papiers. C'est des prisons, c'est des vraies prisons pour étrangers qui, comme toutes les prisons, sont de véritables lieux de torture. On y enferme, on insulte, on tabasse et on expulse surtout sans discernement. Alors le problème des CRA, c'est que c'est des lieux qui sont très invisibilisés, relégués hors des villes, près des aéroports pour évidemment accélérer les déportations. À cela s'ajoutent des conditions de vie vraiment sordides, des accès aux soins problématiques, une bouffe dégueulasse, évidemment une violence quotidienne de la part de la police aux frontières, exercée avec, et soulignons-le, c'est important, avec la collaboration des associations soi-disant humanitaires censées défendre le droit des incarcérés, mais qui finalement maquillent les violences policières, comme Forum Réfugiés à Lyon, France Terre d'Asile à Oissel près de Rouen, ou encore comme l'Ordre de Malte à Lille. Et les tentatives de suicide et d'automutilation sont fréquentes, même quasi quotidiennes, dans les centres de rétention en France. Rappelons que seulement, par exemple, au CRA de Vincennes, il y a eu 2 morts depuis août. Mais face à cette violence d'État, évidemment, et face à l'ensemble de la machine à expulser, les luttes de l'intérieur sont permanentes. Elles s'organisent, elles prennent plein de formes différentes, de la grève de la faim, des évasions, des révoltes. En Italie, par exemple, là, il y a eu la semaine dernière un appel à une semaine d'action contre donc, l'équivalent des CRA italiens, les CPR, suite au tabassage à mort de Vakhtang Enukit par les forces de l'ordre au sein des murs du centre de rétention de Frioul en Vénétie julienne. En plus, cet assassinat a lieu dans un contexte de vagues et de révoltes en Italie là, depuis plusieurs mois. Citons par exemple la destruction de 2 bâtiments du centre de rétention de Turin, qui a été suivi d'une répression féroce et des expulsions massives. 11 évasions dans le centre de rétention près de Trieste en moins de 2 mois. Une révolte et l'incendie au centre Caltanissetta en Sicile après la mort d'Imien Mekini le 12 janvier dernier. Et 3 bâtiments ont aussi pris feu près de Turin à Trapani. Voilà, les récits des révoltes italiennes, on peut les retrouver sur le site ouria.noblog.org. Et en France aussi, ça s'organise.
Oui, alors notamment au CRA de Oissel. Donc Oissel, c'est près de Rouen. Le 22 janvier, après un énième tabassage de la part des keufs, les 42 retenus, les 42 prisonniers du CRA de Oissel se sont mis en grève de la faim. Ils dénoncent les violences, leurs conditions de rétention, la bouffe dégueulasse et surtout pas halal, enfin, et aussi pas halal. Ils se mobilisent depuis donc le 22 janvier, ils ont écrit plusieurs communiqués, ils dénoncent notamment le rôle de France Terre d'Asile, l'association donc qui est censée les aider au CRAD Oissel.
La blague.
La grosse blague. Donc comme le disait notre camarade tout à l'heure, à Lyon c'est Forum Réfugiés, c'est Forum Réfugiés qui s'en occupe et on a des témoignages après, à peu près similaires de leur attitude avec les retenues. On écoute du coup tout de suite le témoignage d'un copain qui est enfermé au CRAD Oissel. C'est une interview qui a été menée par les copains de l'Envolée à Paris. Donc on écoute tout de suite ce témoignage.
Allô, bonsoir.
Bonsoir. Alors, est-ce que tu as pu entendre déjà ce qu'on a dit
Ouais, un petit peu.
Un petit peu. Donc,
ouais.
Donc, t'as eu. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis ce communiqué ?
On peut pas dire du nouveau dans la chute, ouais. Ça devient de plus en plus grave, quoi. Maintenant, c'est un peu des vicieux. Là, il y a pas plus qu'aujourd'hui. Là, il y a des journalistes qui s'étaient arrivés ce matin. Je parlais avec des agents de police. Ils faisaient le ménage. Pourquoi ils ne nous ouvraient pas la grande cour ? Ils nous disaient en fait, elle est sale. Et ils me sortaient des excuses bidons. Mais dans l'après-midi, quand les journalistes y sont arrivés, en fait, ben, ils ont ouvert la porte, ils ont sorti certaines personnes un quart d'heure avant, ils les ont sortis en cours. Ben, quand les journalistes y sont partis, ils les ont fait rentrer directement. Et la personne qui a été tabassée il y a une semaine de ça ou 10 jours, ben, en fait, cette personne, ils l'ont pris en voiture, ils le faisaient balader. Je croyais qu'ils l'avaient ramené à l'hôpital ou qu'ils l'avaient ramené à un juge ou je sais pas. À son retour, il me dit non, en fait, il m'a pris en voiture et il me baladait dans les bois, en fait, le temps que les journalistes soient là. Une fois que les journalistes sont partis, ben, ils sont rentrés au centre. Maintenant, je ne vous mens pas, la façon comment ils parlent aux gens, c'est hardcore, c'est fasciste, ça blesse. Malgré parfois, moi, je ne me fais pas insulter, je ne vous mens pas, je prends mon écart d'eux, mais comment je les vois parler à des gens, ça me blesse au fond de moi. C'est maltraiter les trucs.
C'est de l'humiliation
C'est une humiliation de fou. Alors maintenant, les conditions de vie, je ne vous en parle même pas. Entre les détenus qui sont fous et qui méritent réellement la psychiatrie qui nous ramène ici, entre leur pression à eux, en vérité, ça te dégoûte de la vie. Tu te dis pourquoi je vis en réalité. Mais voilà, maintenant, on essaie de faire avec ce qu'on a. Mais franchement, pour un pays qui est soi-disant le droit de l'homme et de liberté, c'est de l'hypocrisie. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment cauchemardesque. C'est limite, tu te dis, c'est une guerre civile ou c'est quoi le délire ?
Ouais, eux, ils veulent vraiment envoyer un message, quoi, en fait, en vrai, aux gens qui
sont. Ouais, mais leur message, il est incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre leur message. L'immigration, ça a toujours existé, ça existera jusqu'à la fin du temps.
Mais ça les arrange, l'immigration, hein, quand tu sais ça.
Mais c'est... bien sûr, je sais que les arrange. Mais maintenant, c'est hypocrite. Ça les arrange, mais on traite mal les gens. Donc, je vois pas. C'est que de l'hypocrisie. C'est que des mythomanes. Maintenant, on a une association, là, soi-disant, pour aider les gens. Terre d'asile. Mais en vérité, aucun aide. Rien. L'autre fois, ils sont faits complètement. L'autre fois, carrément, la personne qui a été tabassée, quand je voyais, il ne faisait pas de certificat médical et il était là à souffrir, je leur dis, comment ça se fait? Vous faites rien. Il fallait que je me prenne la tête avec la personne. Il fallait que je m'embrouille avec lui pour que les deux filles interviennent et me disent venez, on va faire une lettre pour le procureur et tout. En vérité, ils sont là. Eux, ils sont là juste pour. Moi, je me dis, ils sont là pour gratter leur paye. La paye, voilà, la paye de la fin du mois pour vivre. Ils s'en foutent carrément de l'humanité.
Ça s'appelle une association à but lucratif.
Voilà.
Ouais, et puis
c'est réellement ça.
Maintenant, eux, ils se vantent d'avoir transféré votre plainte et c'est un peu ça leur alibi pour dire qu'ils sont avec vous, quoi.
Ils sont en aucun cas avec nous. Ils sont déjà dans la journée. Si tu les trouves ici 4 heures, c'est déjà bien. Ils doivent passer une petite heure le matin, 1h30 l'après-midi, mais en tout cas, on ne les voit pas.
Ouais. C'est des complices, quoi, c'est tout.
Ouais, c'est clair qu'ils sont complices. C'est décevant pour un pays comme la France, je ne vous mens pas, c'est super décevant. Bon, il y en a. Tu ne peux pas comprendre.
Donc voilà, à Oissel, comme dans tous les CRA d'Europe, les conditions de rétention sont absolument insupportables et largement soutenues par des associations qui viennent participer à ce rouage insupportable qu'est la machine à expulser et les politiques anti-migratoires. Je vous invite à écouter l'interview complète du copain de Oissel que vous retrouverez sur le site de L'Envolée. Et aussi, vous pouvez lire les communiqués des détenus du CRA d'Oissel sur le site internet abalecra.noblog.org.
Précisons que L'Envolée est un collectif et une revue anticarcérale. On enchaîne avec donc 12 sites industriels offerts aux multinationales.
Ouais, c'était alors lundi dernier, à l'occasion du sommet Choose Friends qui se tenait à Versailles. Macron a fait un petit cadeau aux industriels internationaux en offrant 12 sites clés en main, comme il disait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Macron a proposé à 200 PDG de l'industrie, dont Total, Coca-Cola, Netflix ou encore General Electric, une grosse opération de vente, rien de moins que 12 sites industriels à filer au rabais, avec simplification des procédures d'installation pour que ça aille plus vite. Filer au rabais à qui ? Aux investisseurs étrangers, dans le but de vanter la fameuse attractivité et compétitivité à la française. Bref, une vraie entreprise de séduction. Mais le problème, c'est que cette industrialisation massive va de pair avec une pollution énorme, des risques sanitaires monstrueux, et elle nie aussi les contestations locales qui sont déjà mises en place sur pas mal de ces sites. L'enjeu écologique est énorme cette fois-ci, puisque la quasi-totalité de ces sites sont implantés à proximité de cours d'eau ou d'espaces verts, des forêts, des bois, l'océan, ou carrément à quelques centaines de mètres de zones naturelles censées être protégées et reconnues comme telles, comme par exemple la zone Natura 2000, où il y a par exemple des projets près du port de Marseille, près du port de Dunkerque, ou proche de zones, ce qu'on appelle des zones d'intérêt pour la protection des oiseaux, comme le site à Idulslac, Drusenheim et Le Carnet. Mais face à toutes ces attaques, la résistance commence à s'organiser. Notamment, le collectif Terre Commune, par exemple, s'oppose au projet du Carnet sur les bords de Loire, projet qui consiste à agrandir le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire avec une bétonisation de 110 hectares dans une zone du coup en bord de Loire. Bref, pour suivre ces mobilisations, rendez-vous du coup sur la page Facebook du collectif Terre Commune. Toutes ces mobilisations qui sont donc prévues contre ces nouvelles attaques du capitalisme qui, sous des airs et sous des labels d'éco-industrie, cherchent bien à se faire du profit en détruisant le vivant.
Et il paraît que l'impunité policière existe aussi dans les campagnes. Incroyable !
Et oui, et si on connaît tous l'impunité de la police lorsqu'elle violente, tabasse, agresse, mutile ou tue dans les quartiers populaires ou encore dans les manifs, son action dans les zones rurales reste beaucoup plus méconnue et discrète. Pourtant, l'action des gendarmes ne diffère en rien de celle de leurs collègues policiers. Comme en ville, la violence et les exactions sont des pratiques courantes du maintien de l'ordre dans les campagnes. Avec cette différence que l'absence d'anonymat dans les villages ou les petites villes permet aux gendarmes d'avoir bien plus de pouvoir et d'imposer l'omerta sur leurs pratiques. Alors, une affaire relatée récemment par le collectif Désarmons-les vient éclaircir cette réalité des violences policières en zone rurale. En effet, le 3 décembre dernier, comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan trois gendarmes, un major, un adjudant et un adjudant tous deux à la retraite et un adjudant-chef qui est toujours en poste. Donc des gendarmes de la brigade de Mimizan, une petite ville située dans le département des Landes en Nouvelle-Aquitaine. Alors ils étaient poursuivis tous les trois pour 27 infractions au total. Suite à la dénonciation d'un gendarme apprenti qui était en conflit avec eux, comme quoi bon, c'était pas vraiment pour des motifs de justice sociale qu'il y a eu dénonciation, et bien tous les trois encouraient jusqu'à 10 ans de prison selon la loi. Alors il ne s'agissait que de la partie émergée de l'iceberg, car à l'origine c'est quand même 13 agents en poste, enfin sur 13 agents en poste dans cette ville, 9 étaient concernés par les poursuites à l'origine. Alors, parmi toutes les accusations, on retrouve systématiquement la production irrégulière ou la falsification de procès-verbaux, pratique ordinaire des agents de police pour construire ou tourner dans leur sens plutôt des enquêtes en leur faveur et aussi se couvrir en cas de violence ou d'exaction. Toutefois, ce sont d'autres accusations qui attirent ici l'attention. Alors, premièrement, il y a deux cas de violence volontaire sur personnes vulnérables, des violences commises par le major et l'adjudant sur des personnes sans domicile fixe placées en cellule de dégrisement, alors mises à nu dans leur cellule et rouées de coups afin de les faire taire. Ils ont également menacé les deux victimes de les déposer en forêt au milieu de la nuit. Et autre fait accablant, le major a ajouté au contenu de la bouteille d'une des deux personnes sans domicile fixe de l'alcool à brûler. Puis autre chef d'inculpation, humiliation et violence sur un enfant de 12 ans. Hein, un vol de portable, alors durant l'été, un vol de portable avait eu lieu dans un club de surf de la commune. Alors l'encadrant, donc l'animateur, téléphone à la gendarmerie. Le major lui demande de venir à la brigade avec les enfants pour élucider le vol. Alors le minibus du club est alors amené à la gendarmerie et l'éducateur désigne l'enfant qu'il suspecte d'être l'auteur du vol. Alors le major va faire entrer l'enfant dans la gendarmerie et le fait se déshabiller, hein, mettre complètement nu devant tous les adultes présents et lui demande d'écarter les jambes pour voir s'il ne cache pas le téléphone. Enfin voilà, ouais, je ne vous fais pas un dessin. Et l'enfant lui finira...
Surtout à la radio, ça ne servira à rien.
Ouais, voilà. Et l'enfant finira par avouer avoir caché le téléphone dans la portière du minibus.
Bon,
ces deux trucs assez flagrants s'ajoutent des faits de compérage, donc faire sauter des PV à des amis bien placés, faux et usage de faux, écoute téléphonique illégale, etc., etc. Et puis surtout, tous trois ont été également inculpés pour avoir intimidé des témoins et des collègues, voire carrément les avoir violentés, pour se couvrir face à l'enquête en cours contre eux. Alors, cette affaire, elle est révélatrice de plusieurs choses. D'abord que, bon, bah, les violences policières, ça existe aussi à la campagne. Hein, l'impunité... Enfin, le terme même de violence policière, on pourrait même en soi le remettre, trouver contestable, tellement ce genre de pratique est inhérente au rôle de la police. Hein. C'est pas juste un écart, une bavure ou quoi que ce soit. En réalité, le policier est indépendant sur le terrain, son action fait force de loi, même si elle va à l'encontre dans les faits des règles. Alors les entraves aux règles, les ajustements et les débordements sont partie intégrante du fonctionnement du maintien de l'ordre, et la hiérarchie et le pouvoir savent parfaitement jouer. Alors l'impunité du coup dont ils ont profité pendant plusieurs années le montre, mais c'est aussi le jugement rendu par le TGI, hein. 3 mois de prison avec sursis pour le major et 2 mois de prison pour les deux adjudants, à quoi s'ajoutent quelques amendes. Aucun des faits de violence n'a été retenu et même le procureur s'est offusqué d'un verdict aussi faible et d'aussi faible condamnation. Donc à la campagne aussi, la police tue et la justice blanchit. Et comme dans les quartiers populaires aussi, on peut voir que le rôle de la police, il dépasse juste le simple rôle faire respecter la loi. Elle joue également un rôle de préservation de l'ordre social via l'imposition d'une forme d'ordre moral archaïque et autoritaire, notamment envers les plus jeunes. Donc là, ici, le recours à la gendarmerie pour régler cette affaire de viol quand même dans une activité de ruche, de centre aéré, c'est quand même assez flagrant. Hein, c'est assez révélateur. Et on voit comment les gendarmes, comme la BAC dans les banlieues, humilient et violentent pour apprendre les enfants à suivre le bon chemin. Bref, voilà. Pour conclure, donc, espérons que dans nos villages fleurissent également sur les murs des ACAB et que de nouvelles luttes contre les violences policières germent.
Et avant de passer à la suite et notamment de parler de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, on va écouter un petit son.
Oui, on va écouter le groupe Dam, un groupe de rap palestinien militant. Et la chanson s'appelle Milliarda.
Fuck. فلش البلد جدد البلد حتلن البلد كسر طابوهات لتحسمس على البلد كشف على البلد شلح البلد سبرينج از كامينج فشمس البلد
ابو تريكا ممنوع اشرف طياد مجروح فقول لي يا ولد
مين يكنس البلد
هو مليارديرات الدولارات عشان نعيش في شتاء بلا 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 بلا
مسالم مثل الصوفي والبوذي لا توخذون انا مش مزوخي قصفوا مي بظرف شهر فك يوغا ما عاد يكفيني صمودي
تخيل الي جيوشي نفوذي تخيل صورتي على نقودي عبايه كلها خيوطي مش عبايه كوتشي كوتشي
طردنا نوال من البلد عرضنا وندف ومن بالبلد شايف النفاق يا ولد شو مفلس هالبلد
لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد spring is coming فميل عالبلد
بقلتون راح والعقول تاح فقولي يا ولد
من يكنش البلد
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h36 et c'est l'heure des infos. Et vous venez d'écouter Milliardate du groupe palestinien DAM. Et tout de suite, on passe à l'absence de prime pour les grévistes de la SNCF.
L'absence, oui, pour les grévistes, mais pas pour les non-grévistes. Alors, après plus de 50 jours de grève, vous le savez maintenant, à la SNCF, hein, il y en a toujours qui sont en grève reconductible, la direction de la SNCF est de plus en plus décomplexée. Bon, elle l'était déjà ces dernières années, mais là, c'est de pire en pire. Elle verse donc des gratifications exceptionnelles aux cheminots non-grévistes allant de 300 euros jusqu'à 1500 euros. Bah ouais, quoi ? Il est où le problème ? Il n'y a pas de problème. Alors, plusieurs syndicalistes l'ont rappelé, ce type de versement exceptionnel existait déjà auparavant, mais était réellement exceptionnel, alors que là, la direction la propose et la donne de manière décomplexée, donc tout en hurlant sur tous les toits, main dans la main avec le gouvernement, que le déficit est abyssal et les grévistes inconscients. Ah oui, pendant ce temps-là, un nombre d'ailleurs conséquent de grévistes voient leur fiche de paye arriver avec 0 euros, et subissent en parallèle des menaces de révocation et des assignations au tribunal. Ah oui, il faudrait quand même rappeler que cette pratique donc, de distribuer des primes aux non-grévistes est en fait illégale. Alors, je cite la Cour de cassation, c'est pas moi qui l'ai trouvé, je vous avoue, c'est grâce à des syndicalistes. La Cour de cassation dit « Lors d'un mouvement de grève, l'employeur ne doit ni sanctionner les grévistes, ni favoriser ceux qui n'ont pas participé au conflit. » Et cette Cour de cassation se base sur l'article L2511-1 du Code du travail qui existe encore pour le moment. Donc des procédures judiciaires sont d'ores et déjà en cours et lancées par des syndicalistes de la CGT, de Sudrail notamment, contre la SNCF et on espère qu'elles aboutiront. Et en parallèle, certains non-grévistes ont quand même décidé de reverser ces primes aux caisses de grève, encore heureux.
Et on continue tout de suite avec la gêne du patronat concernant le pouvoir macroniste.
Oui, alors... On vous en avait déjà parlé concernant la future réforme des retraites. Au-delà d'un certain plafond de revenus, donc 120 000 euros annuels, il ne sera plus possible de cumuler des points dans le nouveau système universel. Alors, les actifs concernés devront recourir à un système par capitalisation pour tous les revenus dépassant ce plafond. Un moyen dérobé pour le pouvoir de développer la capitalisation en France et d'ouvrir une porte pour BlackRock et les autres assureurs. Un bon moyen aussi, du moins sur le papier, pour les plus hauts revenus d'échapper à la solidarité collective. Bah, du coup, il est où le problème ? Pourquoi le patronat est embarrassé ? Eh bien, il y a une partie donc non négligeable de la bourgeoisie française et du patronat qui s'oppose à cette évolution. Pourquoi ? Parce que les cadres actuellement, hein, ils cotisent jusqu'à 8 fois le plafond, donc 329 000 euros quand même, pour la retraite. Ce qui leur permet de toucher une pension élevée dans le système par répartition. Mais avec le nouveau système, il ne leur restera plus demain qu'une cotisation de solidarité déplafonnée de 2,81%, qui ne leur donne donc aucun droit à la retraite au-dessus de 120 000 euros de revenus. Alors ça peut aller jusqu'à signifier donc un taux de remplacement à la retraite divisé par 2 dans certains cas, ce qui est assez conséquent. Donc pour garder leurs salariés, les entreprises, elles vont être contraintes de compenser ces pertes hein, pour les cadres qui sont des salariés qui sont quand même assez difficiles à conserver, surtout qu'ils ont tendance à travailler à une échelle internationale, et bien elles vont devoir donc compenser les pertes via des augmentations, des primes ou des abondements qui risquent de leur coûter en fait beaucoup plus cher en fin de compte parce qu'elles vont devoir payer des cotisations dessus sans déductibilité fiscale. Donc, évidemment, gros couac pour les macronistes et leur réforme, hein, qui est tellement bâclée qu'elle va même jusqu'à l'encontre des intérêts de leurs principaux soutiens. Et surtout, bon révélateur de la manière dont une partie de la bourgeoisie, plus pragmatique, peut s'opposer à une fraction très idéologue, prête à imposer ses réformes coûte que coûte. Macron, son gouvernement, ainsi que les technocrates de Bercy, ouais, Bercy, c'est j'ai inventé une nouvelle ville, de Bercy, hein, le ministère des Finances, hein, je veux dire, incarne donc cette dernière fraction, jusqu'au boutiste dans leur politique, et prêt à imposer par l'extrême violence ces réformes structurelles. Oui, pour imposer donc l'ordre capitaliste néolibéral en France.
Ça c'est bon.
Ouais. Ouais. Alors Macron donc, c'est une espèce de liquidateur. Mais en face, en fait, on retrouve de plus en plus régulièrement des représentants de la bourgeoisie, en particulier certaines franges du patronat, qui s'inquiètent des pratiques de notre monarque. Le cas le plus flagrant, ça avait été les multiples pressions du patronat en décembre 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes, donc envers le gouvernement pour qu'il lâche un peu de lest aux Gilets jaunes, justement, alors qu'il y avait des émeutes en plein Paris, sur les Champs-Élysées, etc. Conséquence ? Un discours solennel de Macron et plusieurs millions lâchés, notamment via des primes que les entreprises se sont empressées de payer à leurs salariés. Alors, plus récemment, on a eu le scandale lié au refus de la majorité La République En Marche au Parlement d'allonger le congé pour deuil d'un enfant de 5 à 12 jours. Au nom des économies pour les entreprises, donc de l'intérêt des entreprises, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait appelé récemment à s'opposer au texte proposé par une députée UDI. Bon, le scandale, du coup, il a été immédiat ces derniers jours, hein, dans les médias et chez l'opposition. Et vendredi dernier, le MEDEF, hein, coup de tonnerre, du coup, dans la sphère macroniste, le MEDEF a annoncé, par le biais d'un tweet de Geoffroy Roux de Bézieux, donc son président, qu'il est favorable au texte initial et espère donc un nouveau vote hein, pour valider cette augmentation du congé pour deuil d'un enfant. Donc une manière pour l'organisation patronale de dire que...
D'être plus à gauche que La République
En
Marche.
Oui, c'est ça, ouais. et de dire que l'argument économique invoqué par le gouvernement et la majorité n'a en fait absolument aucun sens. Gros désaveu pour Macron et toute sa bande de la part des personnes dont son gouvernement sont censés idéologiquement représenter les intérêts et qui forment aussi le socle social de ce gouvernement et puis aussi financier. Il ne faut pas non plus oublier comment Macron s'est fait élire. Par conséquent, énorme rétro-pédalage de l'exécutif et de la majorité, hein, suit à l'appel de Macron à faire preuve de plus d'humanité et un nouveau vote donc, doit être réorganisé dans les prochains jours. Ce que ces différentes affaires disent de l'état politique du pays actuellement, c'est que Macron, par sa politique et son autoritarisme, exacerbe les clivages sociaux, et en particulier ceux de classe. Et du coup, il révèle de manière de plus en plus visible les rapports de domination au sein de la société française. S'y ajoute la rupture définitive du contrat social né durant l'après-guerre et des risques de révolte, donc, ou voire même de révolution, qui s'exacerbent. Une menace pour le pouvoir de la bourgeoisie que de plus en plus d'entre eux ne sont pas prêts à risquer. Et à l'image d'ailleurs, par exemple, on peut aussi le voir dans d'autres pays, hein, parce que c'est aussi à l'échelle mondiale qu'il y a cette peur chez les classes dirigeantes. Hein. Par exemple, avec aux États-Unis, des milliardaires comme Bill Gates qui annoncent être prêts à payer plus d'impôts, hein, donc un moyen de préserver la paix sociale et de préserver leur pouvoir. Donc peut-être que du coup, comme avec ces milliardaires américains, on va voir en France Macron se faire progressivement lâcher par des membres de la bourgeoisie au profit d'un vrai politique, donc forcément plus modéré, mais aussi plus à même de préserver une espèce de consensus mou dans la société et du coup les intérêts de la classe dirigeante.
Alors il paraît que la Gli F4 a disparu, mais alors c'est un coup de com' ou c'est pas un coup de com'?
Bon, on se pose vraiment la question. On se rappelle que dimanche, Castaner avait annoncé à la télévision en grande pompe l'interdiction de l'usage de cette grenade qui fait boum, la Gli F4, par les forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est une véritable remise en cause des armes, de leur usage meurtrier de la part de la police ou une opération de com' du ministère de l'Intérieur? Évidemment, on a la réponse, soyons clairs. L'interdiction de l'usage de la grenade Gli F4, cette arme qui a quand même arraché 5 mains sur l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, n'est rien d'autre qu'une manœuvre électoraliste à la veille des élections municipales. Et puis surtout, il faut rappeler que cette décision d'interdiction, elle n'a absolument rien de nouveau, parce qu'elle remonte en fait à 2017, quand le gouvernement avait prévu d'utiliser la Gli F4 jusqu'à son épuisement de stock. Et ça dans un contexte, 3 ans après la mort d'un des employés de la société Alcetex, donc usine de production de cette grenade, en 2014, donc la grenade avait explosé dans les mains pendant la production, et elle avait suscité toute une enquête et un rapport de l'IGPN qui avait dit qu'il fallait arrêter de produire cette grenade. C'est donc dans un contexte de production et surtout dans une logique budgétaire que cette décision avait été prise, absolument rien à voir avec les violences policières, et puis surtout, si on s'intéresse un peu à sa remplaçante, la GM2L,
La GM2L?
La GML2.
La GML2. Non mais il faut qu'on s'en rappelle parce qu'on va s'en prendre plein la gueule.
Parce que c'est la important GML2, de savoir ce qu'on mange.
Ben oui, c'est important.
Ouais, la traçabilité de la grenade. Et ben elle est censée ne pas être composée de TNT. Et donc de produire aussi moins d'éclats transfixiants, comme ils disent, mais elle produit en réalité les mêmes effets que sa sœurette. Elle est dotée d'un dispositif pyrotechnique ultra puissant qui renforce à la fois les effets lacrymo, les effets auditifs. Ça reste une arme de guerre qui est destinée à terroriser et à mutiler massivement les manifestants.
Et parfois les lycéens donc.
Oui, alors très rapide.
Ouais. Belle transition.
Super attends, transition.
Faut le souligner.
Bon, très rapide retour à partir d'un post d'un enseignant en grève sur Facebook sur la situation dans les lycées actuellement, alors que 30% environ des établissements sont touchés par le mouvement de grève et que dans 30% des établissements, les fameuses épreuves E3C, donc les épreuves en contrôle continu du bac, sont perturbées. Alors. Pour résumer, donc, le bac blanqué, c'est des sujets disponibles corrigés sur Internet avant que les élèves ne passent l'épreuve, hein, ce qu'on a pu voir un peu partout dans le pays. Des élèves de première qui se retrouvent séquestrés dans leur établissement sous cadenas à composer sous la contrainte, on a vu ça à Bordeaux. Des lycéens tabassés et gazés, ainsi que certains de leurs professeurs devant leur lycée pour avoir simplement manifesté leur opposition à la réforme, on a vu ça à Nantes. Une alarme incendie désactivée au mépris de toute sécurité et un élève blessé par un vigile envoyé par le rectorat, on a vu ça à Romans-sur-Isère. Des élèves qui sont envoyés composer pendant que des camarades à eux, blessés par la police pour avoir essayé d'organiser un blocage à l'entrée de leur bahut, gisent sur le trottoir, en train d'être pris en charge par les secours. On a vu ça à Rennes. On a vu aussi à Grenoble et à Bordeaux des épreuves se tenant sous la garde de policiers armés. des élèves qui se retrouvent à plancher sur des sujets sans rapport avec ce qu'ils ont travaillé en classe, donc ça on a vu ça à peu près dans tout le pays, des surveillances assurées par des personnels retraités qui ne savent pas utiliser le matériel pour lancer les fichiers audio de compréhension orale, des élèves qui repassent une deuxième fois sur le même sujet en cas de report, d'autres qui sont déclarés absents à l'épreuve et reçoivent un zéro pour ne pas avoir forcé un barrage à l'entrée de leur établissement, situation qu'on a vue dans beaucoup de lycées. D'autres encore qui sont punis d'un zéro pour s'être joint à un mouvement lycéen de protestation et qui passeront en conseil de discipline ou subissent un dépôt de plainte de la part d'une proviseure pour avoir appelé au boycott des épreuves. Donc ça se passe à Lyon. Et enfin pour finir, on a le ministère qui ment et monte et ment en annonçant la bonne tenue des épreuves là où elles n'ont pas eu lieu. Et enfin, des élèves de seconde et terminale jugés susceptibles de perturber la tenue des épreuves de première qui sont séquestrés, enfermés à la clé en salle d'études, où une élève fait une crise d'angoisse sans qu'aucun secours ne lui soit porté. Voilà, voilà.
Et la semaine dernière, d'ailleurs, on empiète un peu sur l'actualité locale, mais la semaine dernière, les lycéens et lycéennes des lycées Édouard Herriot et Ampère ont subi également une importante répression. Il y en a un certain nombre qui vont passer en conseil de discipline dans les semaines à venir, a priori. Donc, je pense que c'est quand même important de continuer à les soutenir.
Certains se sont même fait courser par les flics dans l'établissement.
Voilà,
tout simplement.
Ça c'est Ampère. Et voilà, tout ça avec l'aval complice des directeurs d'établissement, et qu'on n'oublie pas d'ailleurs.
Et qu'on n'oubliera pas. Alors, on enchaîne avec quoi ? On enchaîne
avec la grève des centres d'incinération en Île-de-France.
Merci, super, sans transition. Donc, parce que la lutte continue. Et effectivement, les cheminots fatiguent, mais ça part dans d'autres secteurs. Alors, les incinérateurs à Paris, eh bien, il y en a 3 en grève reconductible depuis le 23 janvier. Alors, il y a Ivry-sur-Seine dans le 94, il y a Issy-les-Moulineaux dans le 92 et il y a Saint-Ouen dans le 93. Et leur grève reconductible était jusqu'à aujourd'hui minimum, et on imagine bien que vu le bordel qu'ils foutent, ils vont continuer et donc reconduire la grève pour encore au moins quelques jours, si ce n'est quelques semaines. Donc à E3, donc ces 3 incinérateurs, c'est 6000 tonnes de déchets ménagers brûlés par jour, c'est beaucoup quand même, hein. Et ça concerne 85 communes d'Île-de-France, dont une toute petite commune qui s'appelle Paris. Oh, c'est dommage. Alors ce vendredi, le SITCOM, donc ce n'est pas ce que vous pensez, hein, c'est le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, donc c'est l'organisme en charge du traitement des déchets, a décidé d'interrompre le ramassage des ordures de la quasi-totalité des communes de la métropole du Grand Paris, et ça en fait quand même beaucoup. L'ampleur de la mobilisation a même poussé Jacques Gauthier, donc le directeur des 3 sites, à appeler à l'aide Édouard Philippe, et à appeler à l'aide donc le gouvernement, qui pour le moment ne sait pas trop quoi faire. Pendant ce temps-là, une loi, tranquillement, permettant la réquisition des grévistes du transport public, est déjà en discussion au Sénat, évidemment, pour envisager déjà la prochaine grève. Mais surtout, ce qu'on a à retenir, c'est que la grève, eh bien, elle continue dans des secteurs clés, comme les poubelles à Paris, le Grand Paris.
Et on passe tout de suite à l'actualité locale avec une ouverture d'un nouveau bâtiment à Faisan.
Ouais, c'est bah, du
wow
coup... Grande nouvelle.
Eh oui.
Eh ben ouais, c'est les anciens habitants de l'Amphizède, avec d'autres familles et d'autres exilés et leur soutien, qui ont du coup réquisitionné un gros bâtiment à Faisan, au 9 rue Jean Bouin, très exactement. École Georges Brassens, qui a abandonné quand même depuis 2012, et surtout qui n'appartient plus du tout à la commune, mais qui appartient à Total. Bah oui, Total,
et
finance l'éducation.
Eh oui.
On savait.
Avec donc, le voilà. Pétrole ougandais.
Oui, ça, c'est pour faire le lien avec le début de l'émission, si vous avez bien suivi. Bon.
Donc, ouverture très récente, et donc appel à don massif que vous allez retrouver sur le site de Rebellion, avec le numéro du collectif pour déposer et coordonner tout ça.
Et du coup, pour terminer sur l'actu locale et cette émission, finalement, on va revenir un peu sur les rendez-vous de la mobilisation cette semaine. Et il y en a plein, car c'est pas fini. On a notamment le secteur de la chimie qui se mobilise pas mal cette semaine, notamment dès demain matin à 6h30 avec un tractage au rond-point de Solesmes. Donc on vous invite à y aller massivement. Demain également, il y a des AG à l'ENS. Et surtout à 18h à la Bourse du Travail, l'AG féministe. Mercredi, on commence tôt la journée aussi avec un tractage à Carso. Donc c'est aussi une usine de chimie à 6h30. C'est 4 avenue Jean Moulin à Vénissieux. Du côté de la fac, ça continue aussi puisqu'il y aura un barrage filtrant dès 7h15 à Lyon 2, donc sur le campus de Bron. Des AG étudiantes à Lyon 2 à midi.
Mais c'est déjà ça.
Des AG étudiantes à Lyon 2 à midi et une AG à la Doie à midi et demi. À 17h, une marche au flambeau qui partira de la place Maréchal Lyoté à Foch pour se diriger vers la place Bellecour.
Ça, c'est bien les marches au flambeau. Hein. Venez, vous allez voir, c'est au moins folklorique.
Le soir, vous pourrez aller soutenir la grève dans l'éduc à la maison de l'éducation. Alors, c'est dans le premier arrondissement, mais je n'ai pas l'adresse exacte. Je vous invite à chercher sur Internet. Jeudi, il y a un rassemblement organisé par l'AG féministe à 9h à la DRDFE, donc la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité.
Peut-être.
Comme ça.
Ouais.
C'est donc à 9h, c'est 33 rue Moncey dans le 3e. À 10h, il y a un rassemblement à Vénissieux devant la permanence de Yves Blin, 2 rue du Château. À 11h30, la manif hebdomadaire au départ de la manufacture des tabacs.
Vous pouvez tous faire grève, hein, public comme privé, comme d'hab.
Alors, au même moment, hein, ça se chevauche, mais y a un rassemblement en soutien aux 3 élèves qui sont poursuivis par l'administration de l'université suite à un envahissement d'un conseil d'administration. C'est donc à 12h devant le rectorat. L'après-midi, il y aura des AG sectoriels et à 18h, l'AG Interpro. C'est la deuxième depuis le début du mouvement, mais c'est bien de s'y mettre. Et voilà pour cette semaine de lutte qu'on espérera aussi glorieuse que les précédentes.
Si je ne m'abuse, je crois aussi que jeudi, il y a Marlène Schiappa qui vient sur Lyon. Donc, à voir s'il va se passer quelque chose.
C'est possible, on ne sait pas.
Voilà. Il y aura, j'imagine, hein, d'autres événements. Je ne sais pas si on fait un agenda des autres événements militants.
Bah, vas-y, si tu y as accès.
Ouais. Dans quelques secondes.
Et pendant ce temps-là.
Oui. Et justement, on parlait du mouvement dans les facs. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grève assez importante qui est en train de se préparer pour le mois de mars dans les différentes universités françaises. Et du coup, il y a des caisses de grève qui se constituent. Là, les doctorants de Lyon 2 ont créé une caisse de grève en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller sur Rébellion, il y a tous les liens qu'il faut pour aller donner aux doctorants. Hein, et aux vacataires, sachant que c'est quand même les petites mains de l'université, ceux qui abattent une grosse partie du travail, justement bah, une bonne partie des TD et compagnie, et qui sont sous-payés, et aussi quand ils sont payés,
voilà.
Qui sont souvent payés en retard, mais avec vraiment des mois et des mois de retard. Et on voit bien comment l'université française a bout de souffle, mais comme à l'image de beaucoup de secteurs, en fait, fonctionne avec une main-d'œuvre aussi exploitée, avec ce truc en plus qui a une espèce de chantage moral sur le fait que c'est des universitaires et qu'ils ont une mission d'enseignement.
Tu as bien comblé le vide.
Parfait,
c'était vraiment
c'est
très
super.
Intéressant.
Et du coup, comme le calendrier de mobilisation s'arrête un peu à jeudi, vous pourrez dès jeudi soir aller à un atelier du groupe soins autour des allergies et du système immunitaire. Vendredi, à une soirée publique de la Mutuelle de Lyon pour présenter un peu toutes les pratiques mutualistes, on va dire. À l'atelier des canulars, c'est 91 rue Montesquieu. 92 rue Montesquieu. Samedi, il y a une conférence gesticulée autour du masculin qui l'emporte sur le féminin. Voilà. Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est à la librairie La Griffe à 19h. À 17h, il y a la projection du film Grand Puits et Petite Victoire. En soutien aux grévistes, à la librairie La Plume Noire dans le premier, et c'est tout pour le week-end.
Et donc on vous souhaite une bonne semaine militante, bien sûr, et pleine de luttes et plein de manifs et plein de grèves. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Et on vous laisse avec Blasphème FM.
Bien sûr.
Listening.